Voilà les matins qui débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De nouvelles métropoles concernées par des restrictions sanitaires. Emmanuel Macron a préparé les esprits hier soir sur TF1 et France 2. Après Aix, Marseille, Paris et sa petite couronne, d'autres grandes villes pourraient basculer en alerte maximale après le point presse ce soir du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Et le plan blanc devrait bien être déclenché dans les hôpitaux parisiens.
Près de la moitié des lits en réanimation sont occupés par des patients Covid, par exemple à l'hôpital Bichat. Reportage dans un instant.
La pandémie également à la une aux États-Unis. Donald Trump explique qu'avoir attrapé le coronavirus est une bénédiction divine.
Quand sa gestion de la crise est attaquée, elle, par les démocrates et la vice-présidentielle Kamala Harris, c'était lors du débat télévisé cette nuit avec le républicain Mike Pence, analyse en direct dans ce journal. La pandémie qui plonge près de 100 millions de personnes dans la pauvreté, une hausse inédite depuis 20 ans, alerte la Banque mondiale, alors que les milliardaires se sont, eux, enrichis pendant la crise sanitaire.
À peine sorti d'une mauvaise passe qui a terni le prix littéraire le plus célèbre au monde, le Nobel de littérature sera attribué aujourd'hui à Stockholm.
La française Maryse Condé, la canadienne Margaret Atwood ou le japonais Murakami sont donnés comme favoris.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour: que pourrait changer le droit de vote à 16 ans? Je poserai la question à Céline Braconnier, elle est professeure de Sciences Po et directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Lille et Toulouse, ces cinq métropoles étaient dans le viseur la semaine dernière des autorités sanitaires. Le ministre de la Santé avait parlé d'une situation très préoccupante. Ces villes vont-elles basculer dès ce soir en zone d'alerte maximale, avec des fermetures de bars notamment? On le saura lors du point presse hebdomadaire d'Olivier Véran sur l'avancée du Covid, mais Emmanuel Macron a déjà préparé les esprits hier soir sur TF1 et France 2 à de nouvelles restrictions sanitaires.
Les annonces seront faites par le ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez raison de dire que l'épidémie continue de monter. Il y a des légers mieux dans des territoires où on a réussi, par notre stratégie collective, parce que c'est là aussi toute la nation, à commencer à freiner les choses. Mais le virus circule plus vite depuis plusieurs semaines.
Et donc de nouvelles restrictions à attendre,
monsieur le président. Il y aura bien sûr, dans notre stratégie, dans les endroits où ça circule trop vite, et en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées qui sont les plus vulnérables et où on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, eh bien, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône ou dans Paris et la Petite Couronne.
Et des limitations et donc, de déplacement.
Et donc, il y aura cela.
Pour le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, la situation ne nécessite pas d'alerte maximale. Il estime, conforté par le virologue lyonnais Bruno Lina, membre du conseil scientifique Covid, que les efforts faits sur les règles déjà existantes, sur les tests rapides également, sur la prévention côté seniors et jeunes, sont suffisantes. Même si en réanimation, le taux de patients positifs au Covid frôle les 30% à Lyon. Des services encore plus sollicités en Ile-de-France. Les lits en réanimation sont déjà occupés à 40% par des patients Covid, bientôt 50%. Comment tenir sans déprogrammer des opérations? L'ARS d'Île-de-France devrait réactiver le plan blanc ce matin, selon nos confrères de France Inter, ce qui implique également du rappel de personnel. La réserve sanitaire, notamment, pourrait prêter main forte aux équipes. Le reportage de Véronique Julia à l'hôpital Bichat.
Pour l'instant, on gère, mais jusqu'à quand va-t-on pouvoir tenir? À l'hôpital Bichat, on est déjà à près de 50% de patients Covid en réanimation et déjà obligé d'en transférer faute de place dans d'autres hôpitaux. Dans cet établissement du nord de Paris, chaque jour, ce sont 2 à 3 nouveaux cas qui arrivent en réanimation. Une réanimation déjà remplie depuis début septembre par tout un tas de patients hors Covid. Pour faire face, on a déprogrammé depuis le début de la semaine 10% des interventions, celles qui peuvent attendre, le chef du service Jean-François Timsit.
On a déjà déprogrammé la chirurgie pas très lourde, la chirurgie bariatrique. Pour l'instant, c'est très peu, mais là, on commence à se dire qu'on va déprogrammer la chirurgie lourde. On est surtout très inquiet sur comment on va faire.
Déprogrammer, c'est la seule solution, car cette fois-ci, pas de renfort. Les bonnes volontés ont déjà donné, et les autres régions, elles-mêmes touchées, n'enverront personne à Paris. Il faut donc gérer à effectif constant, quand les équipes soignantes avaient parfois doublé de volume au printemps dernier. Alexandre Demoux, les chefs de réanimation à la Pitié-Salpêtrière, il a, malgré le contexte, le souci de ménager ses effectifs.
Les équipes sont tendues et donc l'idée c'est de ne déprogrammer les congés que si c'est absolument nécessaire. Sinon, on va avoir des vraies complications, des arrêts maladie, des burn-out liés à l'intensité du travail.
Un risque de burn-out mais aussi d'erreurs médicales, d'autant que l'épidémie est partie pour durer plusieurs mois.
7h05 sur France Culture. La suite du journal de Catherine Dutu, lui, estime qu'avoir été contaminé par le coronavirus est une bénédiction.
Donald Trump, de retour au bureau ovale de la Maison-Blanche. Il n'a plus de symptômes depuis plus de 24 heures, plus de fièvre non plus, depuis 4 jours, selon son médecin personnel. Une guérison extrêmement rapide, due à un traitement expérimental que le président américain a reçu à l'hôpital militaire Walter Reed. Un cocktail d'anticorps de synthèse, baptisé Regeneron, que Donald Trump veut distribuer gratuitement et de souhaiter bonne chance à tous les Américains dans une vidéo postée hier. La crise sanitaire et sa gestion, l'un des points de désaccord criants entre républicains et démocrates aux États-Unis. Nouvelle illustration cette nuit avec le débat télévisé entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, la démocrate Kamala Harris. Bonjour Benjamin Ely.
Bonjour.
Vous avez suivi ce débat entre les lieutenants des présidentiables depuis Salt Lake City dans l'Utah, un débat plus lisible que celui de la semaine dernière entre les candidats à la présidence.
Oui, un mot hein, pour résumer ce débat. Respect mutuel, de la courtoisie, des phrases complètes cette fois. Et Mike Pence qui lance à Kamala Harris, c'est un privilège d'être à vos côtés. La démocrate le remercie et le recadre rapidement à la moindre tentative d'interruption.
Less than $400,000 a year.
Repeal the Trump tax cuts.
Mr. Vice President, I'm speaking.
Monsieur le vice-président, je suis en train de parler, presque l'équivalent poli du shut up man, le ferme-là adressé à Donald Trump par Joe Biden à Cleveland. Une passe d'armes en particulier dans ce débat, son débordement, elle portait évidemment sur la crise sanitaire, le coronavirus.
The American people have witnessed what is the greatest.
Kamala Harris attaque. Les Américains ont été témoins du plus grand échec d'une administration présidentielle dans l'histoire de notre pays. 210 000 morts. Et ils savaient ce qu'il se passait. Ils ne vous ont rien dit.
But I want the American people to know.
Mike Pence répond, dès le premier jour, le président a mis la santé de l'Amérique au premier plan. Il a suspendu tous les voyages depuis la Chine, la deuxième économie du monde, et il a sauvé des centaines de milliers de vies.
And I believe it saved hundreds of thousands of American lives.
C'est franc, c'est direct, mais pas d'insultes, juste de la politique. Sauf que Donald Trump n'a pas pu s'empêcher d'apporter sa touche personnelle. Dans un tweet, il a commenté le débat. Selon lui, Mike Pence s'en est très bien sorti. Mais elle, Kamala Harris, c'est une machine à baffe, dit le président.
Benjamin Ely, en direct de Salt Lake City pour France Culture. Kamala Harris, qui est également fille de professeur d'économie, est revenue hier soir sur le tollé suscité par Donald Trump jusque dans le camp républicain de rompre les négociations avec les démocrates sur de nouvelles aides aux ménages, aux entreprises, aux collectivités locales et à différents services publics affectés par la pandémie. Près de 3 milliards de dollars en jeu, alors que plus de 12,5 millions d'Américains sont aujourd'hui au chômage. Et les professionnels du tourisme notamment attendent encore beaucoup du président. Le reportage de Benjamin Fontaine à Miami Beach en Floride.
Sur la mythique Ocean Drive de Miami Beach, longue de 2 km, les serveuses continuent d'interpeller les quelques rares touristes, mais en ce moment, les terrasses sont vides. Barbara Pellegrini, gérante d'un restaurant, est désespérée.
Avant, c'était plein ici. On avait plein de monde. Ocean Drive était bondé. Maintenant, les gens ont peur de la pandémie et ils n'ont plus d'argent.
La gérante n'a rouvert son restaurant qu'au mois de juin. Elle a dû se séparer de 30% de ses salariés pour réussir à payer ses factures et n'a pas reçu un centime du plan d'aide.
Les grosses entreprises ont reçu de l'argent, mais les petites entreprises n'ont rien reçu. Donald Trump n'a rien fait pour nous. Il a juste aidé ses amis.
À quelques mètres du restaurant de Barbara, le Beacon Hotel a lui pu recevoir une aide précieuse, mais ça n'a pas permis de tout sauver. Augustine est aujourd'hui le seul manager de l'établissement.
On a réduit le personnel de 90%. Si l'aide arrive, Dieu merci, ce serait fantastique. Sinon, on restera optimiste, sans regarder en arrière et on trouvera comment survivre.
Dans la rue parallèle, Roberto est impatient. Ce soir, il rouvre son restaurant après 2 semaines de travaux. Mais avec la moitié de son personnel seulement, le fameux plan d'aide, il en a aussi bénéficié.
Avec ce qu'on a eu, on a vécu 5 mois. Maintenant, ça vient de ma poche.
Roberto suit de près les déclarations du président et il ne comprend pas trop.
Il joue avec les gens de ce pays et ça n'a pas de sens parce qu'on a besoin de cet argent. Mais bon, si on a tenu jusqu'à aujourd'hui, 3 semaines de plus, ce n'est rien.
Ces trois professionnels s'inquiètent surtout pour leurs employés qui risquent de voir leurs allocations chômage diminuer.
La pandémie de Covid-19 qui annule toute réduction de l'extrême pauvreté du jamais vu depuis 20 ans. Entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires ne vivront qu'avec moins $1,90 par jour, estime la Banque mondiale. Parmi eux, de plus en plus de citadins, de plus en plus de femmes. Et la moitié des pauvres sont des enfants de moins de 15 ans, alors qu'ils ne représentent qu'un quart de la population mondiale. Et dans le même temps, la fortune des milliardaires a touché un sommet durant la pandémie, passant les 10 000 milliards de dollars grâce au vif rebond des marchés. Au procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises s'est arrêtée hier sur les faits reprochés à Amar Ramdani, soupçonné d'avoir apporté un soutien financier à Hamidi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère qu'il avait connu à la prison de Villepinte, des faits qu'il nie en bloc. Et après son interrogatoire, l'audience s'est déplacée sur le terrain de la religiosité avec le témoignage de ses deux anciennes compagnes, dont une ancienne gendarme, aujourd'hui radiée de ses fonctions, Florence Turme.
Elle s'approche de la barre, cheveux longs sur sa veste noire, et l'on perçoit tout de suite son malaise, une tension qu'elle ne cherche d'ailleurs pas à dissimuler. 40 ans, 3 enfants et en recherche d'emploi, déclare-t-elle en préambule. La jeune femme, adjudant bien notée par sa hiérarchie, a été radiée des cadres de la gendarmerie pour avoir consulté de nombreux fichiers d'antécédents judiciaires en utilisant les codes de l'un de ses collègues. Pas pour le compte d'Amar Ramdani, qui évite de la regarder depuis le box des accusés, mais pour tenter d'en savoir davantage sur l'homme qu'elle avait rencontré et qui venait de lui avouer avoir fait de la prison. « Mais j'avais appris à connaître la personne avant son passé judiciaire », explique-t-elle sans détour, « quelqu'un de bien qui était là pour moi ». Les questions de la partie civile fusent en rafales désordonnées, la plupart insidieuses et chargées de clichés, clairement orientées sur le fait que le témoin s'est converti à la religion musulmane. C'était, a-t-elle précisé, 2 ans avant de connaître Amar Ramdani. À aucun moment du dossier, l'accusé n'apparaît radicalisé, même si son autre compagne a noté un changement de comportement qui a contribué à leur rupture. Mais l'une et l'autre décrivent un homme perdu lorsqu'il découvre le visage d'Hamidi Koulibaly à la télévision. Il leur dit qu'il le connaît, leur demande ce qu'il doit faire. Il était là, atterré, les bras ballants sur mon canapé, se souvient l'ancienne gendarme qui l'interroge. L'as-tu aidé à quoi que ce soit? Non, alors tu n'as rien à craindre. C'est, ajoute-t-elle, ma conception de la justice. On devrait être entendu, mais inquiété. Non.
L'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle a été adopté hier et publié aujourd'hui au journal officiel. Il concerne 55 communes des Alpes-Maritimes et 21 communes des Côtes-d'Armor. Les personnes concernées ont jusqu'à 10 jours après l'apparition de l'arrêté pour déclarer le sinistre à leur assureur. La semaine des Nobel a commencé lundi à Stockholm, mais elle va connaître un de ses moments les plus attendus aujourd'hui avec l'annonce du prix Nobel de littérature, un choix qui va faire passer un écrivain à la postérité, l'occasion aussi pour l'Académie suédoise de rassembler sa légitimité après des années de scandale. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce jeudi 8 octobre, nuageux sur une grande partie du pays, de timides éclaircies au sud et des averses attendues dans la moitié nord. Au meilleur de la journée, il fera entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, comptez de 18 à 25 au sud.